Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marianne durant la case.
L'Institut de France accueille plus d'un millier de dons, legs et fondations et depuis quelques années ont été créés sous son égide de grandes fondations par l'ampleur des dons versés. La fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, créée en 2001, est l'exemple d'une de ses récentes fondations contribuant à l'organisation des grands prix de l'Institut. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui François Gros, qui a occupé au Collège de France la chaire de biochimie cellulaire et qui est secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, pour nous présenter l'action de la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. François Gros, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Quand et comment a été créée cette fondation ?
Eh bien, cette fondation a été créée en réalité au début de ce nouveau siècle, puisqu'elle a été créée en 2001. Il a fallu un certain nombre d'ajustements, de sorte qu'elle est devenue seulement opérationnelle en début 2002. Et en fait, c'est une fondation qui portait initialement le nom de Fondation Rodolphe Mérieux, Institut de France, et dont la présidence était assumée par... Le chancelier Pierre Messmer, et qui s'est appelé par la suite Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, parce que Christophe lui-même, l'un des fils de Mérieux, s'était beaucoup impliqué sur le terrain pour le développement des activités de la Fondation. Et elle a été présidée à partir de 2005-2006 par le chancelier actuel, Gabriel Debreuil.
Alors justement, les mécènes sont généralement discrets. François Gros, vous êtes membre du conseil d'administration de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux depuis sa création. Puis-je vous demander de nous en présenter justement les mécènes qui étaient le docteur Charles Mérieux, quel est l'actuel président ? Et justement, on voit l'importance de cette famille dans cette action de mécénat.
Bien, cette famille a joué un rôle tout à fait considérable en France, mais au plan même international, dans ce qu'on pourrait appeler la prévention de l'émergence des maladies, maladies infectieuses notamment, qu'elles atteignent l'homme ou les animaux. Et de fait, tout a commencé avec, au fond, l'aïeul même d'Alain Mérieux, le père de Charles Mérieux, qui devait, je crois, s'appeler Albert Mérieux, si je ne m'abuse, et qui était plus ou moins un émule de Louis Pasteur. Et en réalité, il y a eu une sorte de parallélisme, si je puis dire, entre le développement, disons, des entreprises Mérieux, parce que très tôt, elles ont voulu déboucher sur de l'appliqué, la purification de vaccins et de réactifs, et le développement même des instituts Pasteur, qui avaient peut-être une vision plus fondamentale. Alors, il se trouve que lorsque j'étais directeur général de l'Institut Pasteur, à partir de 1976, Charles Mérieux et moi nous sommes beaucoup rapprochés, notamment à l'époque pour réfléchir aux purifications, à l'amélioration du vaccin contre la rage, notamment. Et puis, celui qu'on appelait familièrement le docteur, Charles Mérieux, qui était un homme tout à fait étonnant par sa vitalité, par son engagement personnel, même jusqu'à un âge très tardif, qui était toujours sur le terrain avant les autres. Je parle du terrain africain ou même de la Russie ou bien d'autres pays assez lointains. Celui-là, justement, est venu très souvent discuter avec moi à l'Institut Pasteur de ce que l'on pouvait faire, non seulement pour, disons, le groupe Mérieux, mais aussi pour les Instituts Pasteur eux-mêmes. Par exemple, les instituts Pasteur d'Afrique. Très souvent, il m'appelait d'ailleurs au téléphone très tôt le matin. Il arrivait qu'à 5 heures du matin, le téléphone retentissait chez moi et mon épouse savait immédiatement que c'était de lui qu'il s'agissait. Il était très étonné d'ailleurs de voir qu'on n'était pas tout de suite, en quelque sorte, ancré sur l'actualité de ses recherches.
C'était une personnalité particulièrement réactive.
Généreuse et réactive, et en même temps qui avait qui montrait cette particularité d'être en même temps un redoutable homme d'affaires, parce qu'il fallait évidemment gérer une industrie pharmaceutique à laquelle il avait donné un essor considérable, un homme qui n'était pas du tout, disons, indifférent à l'engagement politique, mais dans le bon sens du terme, et qui était ouvert à l'international, à la recherche scientifique, qui défendait l'esprit de l'Institut Pasteur, quelquefois presque autant, je ne dirais pas plus, mais tout de même que les pasteuriens eux-mêmes, et que j'aimais beaucoup parce que c'était quelqu'un, évidemment, c'était une personnalité très attachante.
Il nous faut peut-être clarifier deux éléments, Monsieur François Gros, si vous le voulez bien. Il y a d'une part la Fondation Mérieux et la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, créée en 2001 sous l'égide de l'Institut de France, celle qui nous occupe aujourd'hui. Quels sont les liens entre les deux ?
Eh bien, en fait, la Fondation Mérieux existait bien avant la Fondation Rodolphe, puis la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Elle a dû être créée, je pense, vers le milieu du XXe siècle. Et elle a répondu au souhait que avait exprimé d'abord Charles Mérieux et qui a repris évidemment fortement Alain Mérieux, son fils, c'est-à-dire de pouvoir développer rapidement des actions sur le terrain, en Afrique, mais aussi en France même, pour mobiliser les scientifiques et les médecins. Par exemple, à travers des subventions pour des recherches, bien sûr, de caractère biomédical, mais aussi des colloques. Par exemple, très souvent, des colloques scientifiques et médicaux de nature internationale se tenaient dans la propriété des Mérieux, qui s'appelle les Pensières, à côté d'Annecy. Et là, donc, cette fondation s'est établie, elle a son siège à Lyon, bien sûr, mais elle a eu donc une activité nationale et internationale très importante. Mais très tôt, Alain Mérieux a pensé qu'il fallait donner peut-être plus d'ampleur à l'assise scientifique de leur activité. C'est pourquoi il s'est rapproché de l'Institut de France. Donc, comme je disais tout à l'heure, au début du troisième millénaire, c'est-à-dire en 2000.
En 2001. L'Institut, avec les grands prix scientifiques des grandes fondations distribués chaque année en juin, offre par le biais des membres de l'Académie des sciences une garantie d'expertise. Quel rôle joue précisément justement l'Académie des sciences ou les membres qui participent à la fondation Rodolphe et Christophe Mérieux ?
D'une manière générale, comme vous l'avez rappelé, l'Institut de France, et c'est vraiment tout à fait à son honneur, s'est investi avec, très fortement avec les fondations dans un très grand nombre d'actions caritatives, mais aussi dans des actions en amont, c'est-à-dire des actions de recherche susceptibles de déboucher sur des grandes applications dans tous les domaines d'ailleurs scientifiques, pas uniquement dans le domaine biomédical. Et puisqu'il s'agit évidemment de des fondations Mérieux, il s'agit surtout du domaine biomédical. Alors, bien entendu, souvent l'Académie nationale de médecine est consultée, mais comme l'Institut de France est concerné directement, il fait très souvent appel aux académiciens, aux membres de l'Académie des sciences, qui d'ailleurs incluent en leur sein, l'Académie des sciences inclut une section médicale très puissante et très importante. Donc ces académiciens jouent un rôle de conseiller, participent à des comités scientifiques pour des jurys de prix, ou bien examine justement avec les membres de la famille Mérieux, en l'occurrence, des projets d'action sur le terrain.
On peut citer vos confrères qui participent à la Fondation Christophe et Rodolphe
Mérieux. Par exemple, le professeur Jean Rosa est l'un d'eux. C'est un biomédecin très connu qui a travaillé beaucoup sur les maladies du sang. Sur un autre plan, il faudrait citer par exemple Michel Fardeau, qui est un grand spécialiste des maladies musculaires et qui en même temps est professeur au CNAM. Également, le professeur Pierre Léna, qui est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie de cette fameuse triade de la main à la pâte et lui est appelé très souvent en consultation pour développer l'enseignement scientifique sur le terrain par la méthode désormais bien connue de la main à la pâte.
Alors que sa formation, plutôt, il est astrophysicien. C'est intéressant de voir.
Pas uniquement, étant un fameux astrophysicien, lui-même et bien sûr Georges Charpak, qui en a été l'inventeur, Yves Quéret aussi. essaye de développer une formation à la science dans l'école primaire. C'est ça la particularité, et on le sait, c'est un système qui est désormais développé en France, mais aussi un peu partout dans le monde. C'est là où la France, d'ailleurs, a servi vraiment de modèle, de formation pour le...
Et on va voir justement que c'est important, puisque c'est important pour la fondation, pour ces justement, Christophe et Rodolphe Mérieux qui souhaitent justement développer la formation et les projets d'éducation scolaire, scientifique. Alors, on va d'abord revenir un petit peu à la particularité de cette fondation. Existe-t-il une philosophie Mérieux? Le slogan de la fondation Mérieux est « Ensemble, vaincre les maladies émergentes ». Alors, existe-t-il un slogan pour la fondation Christophe et Rodolphe Mérieux Institut de France, ou peut-elle tout simplement faire sienne ce slogan? Est-ce que ça correspond bien?
En réalité, l'idée sous-jacente qu'a développée Alain Mérieux, et d'ailleurs avec l'appui de son épouse Chantal Mérieux, et la suivante, c'est que, bon, il y a énormément d'actions, évidemment, caritatives de par le monde, de caractère national, d'ailleurs, l'Agence française du développement, l'AUF, l'Agence universitaire francophone, etc. Mais que peut faire, justement, un grand groupe industriel, justement, orienté vers la production de produits de diagnostic et de vaccins? Bon, certes, il peut apporter des moyens financiers pour aider à la recherche sur le terrain. Mais surtout, le leitmotiv, c'est le partenariat. C'est-à-dire, plutôt que de donner des moyens, peut-être plus ou moins à fond, hélas, perdus quelquefois, d'assistance, c'est de faire du vrai partenariat. C'est-à-dire de catalyser sur le terrain un développement d'entreprises ou d'enseignement, ou de recherche, qui fasse que, par exemple, dans les pays de l'Afrique, les personnes directement intéressées puissent, grâce à l'appui de la Fondation, acquérir les diplômes nécessaires, l'argent nécessaire pour monter des petites entreprises, de manière à pouvoir établir des liens de partenariat, peu à peu, à égalité, avec les pays du Nord. C'est d'ailleurs aussi, je dois le dire, dans cet esprit que travaille, par exemple, l'Académie des sciences avec le Comité des pays en développement et d'autres académies.
Alors, quelles sont justement les missions de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux Institut de France? Il y a trois grands axes, hein, la recherche scientifique, l'action humanitaire et les projets d'éducation, de formation. Alors, une de leurs grandes missions, et vous allez nous l'expliquer, c'est de contribuer à la recherche scientifique appliquée à la santé publique, pour la lutte contre les maladies infectieuses. En quoi consiste exactement la recherche scientifique appliquée, monsieur François Gros?
Eh bien, aujourd'hui, la biologie fondamentale et toutes les sous-disciplines qui y sont rattachées, comme l'immunologie, la virologie, et surtout peut-être plus récemment la génétique, et encore plus récemment la génomique, permettent d'avoir une connaissance beaucoup plus précise, disons, de la nature des agents pathogènes au niveau de leur constituant génétique, précisément, de leur infectiosité, ce qu'on appelle leur virulence, et en même temps des éléments moléculaires qui les constituent, connaissance qui permet de déboucher sur de nouveaux diagnostics et de nouveaux vaccins. Donc, il devient de plus en plus difficile de faire de la biomédecine si on ne fait pas également de la recherche scientifique en amont, donc fondamentale. Et c'est ça surtout à quoi fait référence la terminologie recherche scientifique, disons, de caractère appliqué à la santé publique. D'autant plus que le nombre d'agents maintenant, d'agents viraux notamment, devient considérable et qu'on assiste, et ça n'est pas évidemment très réjouissant, un nombre de plus en plus élevé d'agents pathogènes émergents qui sont apparus dans les dernières décennies. Bon, le sida étant évidemment un peu l'archétype, mais aussi les maladies dites des zoonoses, comme
maladies transmises par
la grippe aviaire,
les animaux,
ou bien des
hommes.
Maladies comme le virus Ebola qui est terrible, etc. Sans parler des maladies réémergentes comme le paludisme La tuberculose, oui.
Également. Les moyens donnés par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux sont-ils des moyens seulement matériels dans l'aide apportée à la recherche justement scientifique appliquée ? Comment ça se traduit concrètement en termes de moyens ?
Bien, les moyens les plus importants de cette fondation, donc aujourd'hui Christophe et Rodolphe Mérieux, consiste surtout à aider des actions, d'importantes actions de terrain qui, et ça c'est tout à fait remarquable, ont été initiées soit par Alain Mérieux lui-même, qui par exemple s'est déplacé très fréquemment en Haïti, qui est un, disons, un pays très dur, où règne
très
une précarité, très beau mais très dur, où règne une précarité, violence, insécurité, pauvreté, etc. Ses propres fils, d'abord Christophe Mérieux au Cambodge, et puis Alexandre Mérieux au Mali, etc., et qui ont monté, qui ont désiré monter des actions de long terme dans ces pays.
Et des actions donc de terrain.
Comment ?
Ils se sont déplacés
des
eux-mêmes.
Des actions vraiment de terrain, des actions pérennes, qui puissent justement servir de non seulement d'aide à la santé publique immédiate, mais en même temps de centre de référence pour une grande partie de l'Afrique.
Oui, ça c'est
ou de l'Asie, bien sûr, parce que c'est le Cambodge.
Quand vous dites centre de référence, vous faites allusion aux actions de formation et d'enseignement aidées par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Pour que certaines écoles du Cambodge ou au Mali, certains centres de formation scientifique, puissent devenir effectivement des pôles dans ces grandes aires régionales. C'est le but de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.
Alors, le but, bien sûr, il ne faut pas se méprendre, d'une part, nous allons peut-être y revenir dans un instant, d'aider de manière immédiate à résoudre des situations de très grande précarité. Par exemple, celles qui touchent les enfants abandonnés ou orphelins d'Haïti. Bon, là, il y a toute une série d'actions de caractère caritatif qui existaient déjà, mais qui manquaient terriblement de moyens pour pouvoir se développer. Si je puis donner un exemple, il y a une très belle action, un mouvement en quelque sorte caritatif, qui, dans le langage haïtien, s'appelait Club Timoun Ke Kontan, ce qui veut dire le club des enfants heureux. Et il s'agit là d'aider justement des jeunes pour essayer de les sortir de l'engrenage dans lequel ils se trouvent, dû à la précarité, éventuellement parfois même à la violence. Donc là, les moyens apportés ont permis de conforter cette action. Il y en a eu beaucoup d'autres, dans les orphelinats, dans des actions pour former, par exemple, des instituteurs locaux.
Oui.
Par exemple, l'ONG Défi,
oui,
qui existe depuis déjà pas mal de temps, mais qui manquait de moyens, a été confortée également en Haïti pour former des instituteurs. Donc vous voyez, non seulement la formation, par exemple, scolaire, mais également l'aide aux soins et au recueil des orphelins. Donc tout ceci, Haïti a été justement un terrain d'action.
Un laboratoire d'action caritative.
À côté de ça, il y a donc d'autres actions peut-être qui ont consisté à créer des infrastructures, des véritables infrastructures de long terme. J'en donne deux exemples. L'une au Cambodge, qui était la faculté de pharmacie de Phnom Penh, qui est la ville principale du Cambodge, où là, Christophe Mérieux s'est lui-même particulièrement investi. C'est lui qui a eu l'idée de développer cette faculté. Pourquoi ? Pas tellement pour créer une faculté de pharmacie en soi, mais parce que justement, elle allait servir un peu de faculté phare pour toute cette partie de l'Afrique. Et c'est ce qui s'est passé.
De l'Asie.
C'est-à-dire pour le développement des diagnostics, notamment des tests rapides pour le sida, de diagnostics biologiques et médicaux. Les différents spécialistes de l'Afrique de l'Ouest viennent désormais dans cette faculté de pharmacie qui a été inaugurée en 2004, d'ailleurs par le chancelier Pierre Messmer, par Alain Mérieux lui-même. Je devais d'ailleurs m'y rendre, j'en ai été empêché, et bien entendu par le président du Mali. Aujourd'hui, c'est un outil absolument incomparable qui, naturellement, permet d'apporter l'aide à toute une partie de l'Afrique. Autre exemple, au Mali, ce centre Charles Mérieux et ce laboratoire Rodolphe Mérieux, qui sont des centres très importants, qui également ont été inaugurés par l'Institut de France récemment.
Vous écoutez Canal Académie.
François Gros, la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux accorde une grande importance au développement du microcrédit comme réponse aux problèmes économiques des pays en développement.
Vous le savez, aujourd'hui, c'est une des voies qui me semble d'ailleurs extrêmement saine. C'est-à-dire, certes, il faut qu'il y ait de grandes actions internationales pour lutter à très grande échelle contre certains fléaux que l'OMS a bien décrits. Sans oublier d'ailleurs ceux qui n'interviennent pas dans les premières priorités, comme le sida, la tuberculose, le paludisme, parce qu'il y a énormément d'autres maladies qui tuent les enfants. On dit qu'il y en a à peu près 10 millions qui meurent chaque année. Hein. Bon, d'autres maladies autant que celles des grandes priorités. Mais il faut aussi aider les populations pauvres à sortir du cercle vicieux dans lequel se trouve. Et pour ça, il faut qu'elle puisse travailler, monter elle-même des actions. Souvent, ce sont les femmes, d'ailleurs, qui le font. Et il faut que ces femmes, qui sont évidemment les gardiennes de la famille, mais qui en même temps sont, je dois dire, les personnes sages que l'on consulte et qui, évidemment, forment les enfants, il faut qu'elles puissent elles-mêmes disposer de moyens élémentaires, d'abord pour les former, et puis peut-être pour avoir monté des petites entreprises de production agricole ou autre. Et là, le microcrédit, qui a été institué maintenant à une assez grande échelle, Alain Mérieux a souhaité vraiment mettre tout son accent sur cette affaire. Et bon, il l'a fait non seulement en Haïti, mais il l'a fait même en Bolivie récemment, pour aider des femmes qui travaillent dans des conditions épouvantables et qui ne pouvaient plus s'en sortir parce qu'elles n'avaient aucun moyen. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont dans une situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire moins d'un dollar par jour. Donc si on ne leur donne pas les moyens élémentaires, ces personnes ne peuvent non seulement pas payer leur subsistance, mais ne pourront jamais s'en sortir parce qu'elles sont dépendantes toute leur vie. Donc, pour en sortir, il faut qu'elle crée des petites entreprises.
Donc, on a une aide vraiment qui touche la personne directement. Là.
La personne et sa famille.
Et sa famille. Est-ce que cela correspond au cadre de développement souhaité par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, à savoir celle d'un développement durable?
Oui, bon, évidemment, le développement durable est un petit peu aujourd'hui la panacée à laquelle on fait référence, à juste titre d'ailleurs. Mais bon, ce que l'on peut peut-être constater, c'est qu'il faut parfois préciser ce qu'il y a derrière.
Alors
il y a non seulement des effets...
Parce qu'on parle même de santé durable.
...importants au niveau, disons, de l'environnement.
Oui.
Et par exemple, quand on aide des populations de l'Afrique au niveau financier, économique, on les aide en même temps à, disons, assainir parfois leur environnement, évidemment, non seulement par les sanitaires, par la purification de l'eau, etc. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sorte de cascade de causalité qui fait que peu à peu, l'environnement dans lequel elles vivent se dégrade complètement. Donc ça s'inscrit, certes, peut-être à une échelle du village, mais aussi de la région, plutôt que peut-être du pays dans son entier, dans le cadre du développement durable environnemental. Mais il y a aussi la protection de la biodiversité. Donc essayer de faire en sorte que bon, on protège les espèces animales et qu'on évite de tuer un peu n'importe quoi pour la consommation. Et il y a aussi, bien entendu, je devrais presque le dire en premier, la protection des gens eux-mêmes. Donc tout ceci fait partie forcément du développement durable. Le sida a décimé dans certaines régions de l'Afrique à un tel point la population active qu'il n'y a plus d'économie possible. Donc les deux choses sont liées.
Alors, quelles sont les aires géographiques touchées par la Fondation Mérieux? Vous avez évoqué effectivement tout à l'heure le Cambodge, Haïti et le Mali. Pourquoi une aide focalisée sur quelques pays? Ça correspond effectivement à cette volonté de travailler sur le terrain et d'accompagner les projets, mais c'est quand même un choix particulier, assez intéressant.
Ben, c'est probablement, je ne peux pas parler à la place évidemment de M. Alain Mérieux et de son épouse, et des enfants dans ce choix, mais je crois savoir que Alain Mérieux lui-même a fait plusieurs voyages en Haïti et a été extrêmement ému de voir la situation de précarité terrible et la violence aussi.
Ce sont les rencontres en fait qui ont
et donc des rencontres directes
déterminé.
Et aussi bon, il a été très frappé de voir les actions menées soit par des laïcs, soit par des prêtres d'ailleurs, actions tout à fait remarquables. Mais aussi dans d'autres cas de figure, par exemple au Cambodge, il y avait déjà un institut Pasteur, l'institut Pasteur du Cambodge, qui a été réhabilité il y a quelques années, grâce d'ailleurs à, en grande partie à l'action d'un précédent directeur général, Maxime Schwartz. Et très souvent, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, disons l'institut Mérieux, qui s'occupait des vaccins biomérieux, et l'institut Pasteur, De Paris, mais aussi les instituts Pasteur locaux travaillaient de manière très coordonnée. Par exemple, pour la formation des jeunes médecins. Par exemple, un DES de biologie a été monté au Cambodge de façon coordonnée entre l'institut Pasteur et évidemment la fondation à l'époque Rodolphe Mérieux.
Donc des créations de formations diplômantes.
Tout à fait.
Est reconnu internationalement, ce qui donne évidemment cette référence dont vous parliez tout à l'heure en début de l'entretien, dans la volonté
qui
des
permettent
actions.
Par exemple, à des jeunes médecins en formation ou jeunes pharmaciens cambodgiens d'acquérir une formation diplômante qui leur permette soit de compléter cette formation à l'étranger en revenant ensuite dans leur pays. Donc, les choix étaient soit des choix qui avaient déjà été plus ou moins prévus dans l'action générale de la lignée Mérieux, si je puis dire, mais aussi souvent des instituts pasteurs. Alors, ça ne s'est pas limité uniquement au Cambodge, Haïti et au Mali. Il y a eu plus récemment, à partir de 2005, sur la proposition d'ailleurs de Christophe Mérieux lui-même, une extension à Madagascar. Et là, bon, il est question
de monter peut-être. C'est tout récent. Racontez-nous les prochaines actions là, sur Madagascar.
Alors, je ne sais pas si on peut considérer qu'elles sont déjà définitivement acquises, mais je sais que tant Alain Mérieux lui-même que les gens de ce qu'il a appelé Mérieux Alliance, ou Alliance comme on dit en anglais, et qui est en fait une structure qui permet d'avoir une vision un peu plus large des actions internationales. En liaison d'ailleurs avec d'autres actions caritatives internationales, se sont rendus sur place à Madagascar pour voir le ministre de la Santé et voir ce qu'on pourrait créer en termes de soit d'une nouvelle faculté de pharmacie, qui serait d'ailleurs en coordination avec la faculté de pharmacie de Grenoble, qui aurait là aussi un rôle un peu similaire à celui de
Cambodge.
Un rôle de partenaire et de formation. Donc aide locale, mais formation aussi. Soit peut-être d'un centre, disons, d'une autre nature. Mais là, je pense que les choses ne devraient démarrer, si j'ai bien compris, qu'en 2008. J'ai oublié de parler du Laos, qui était aussi une suggestion de Christophe Mérieux, où là, à Vientiane, s'est créé une sorte de centre d'infectiologie pour la biologie médicale et la biologie moléculaire.
Ce sont toujours des pays en développement extrêmement pauvres. Font partie des pays les moins avancés sur le plan économique.
Alors, certes, ce sont des pays en développement pauvres, mais prenons l'exemple du Mali. C'est un pays très pauvre de l'Afrique.
Oui, c'est intéressant de voir.
La gouvernance est particulièrement ouverte à l'idée de développer sur place ces élites.
Localement.
Et ça, c'est tout à fait magnifique.
Et justement, on va sûrement revenir à cet exemple du Mali. La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux Institut de France a créé en 2007 un nouveau prix, un grand prix de l'ordre de 400 000 euros. Oui. François Gros, pouvez-vous nous parler de cette nouveauté ? Parce que non seulement la Fondation faisait déjà beaucoup, mais là, pour cette année, il y a eu la formation, la création de ce grand prix scientifique qui fait partie des grands prix scientifiques de l'Institut.
Alors, ces grands prix, d'ailleurs, il y en a d'autres, comme vous le savez, que décernent les fondations de l'Institut de France, ont une valeur à la fois symbolique, bien sûr, et c'est important parce que ça attire l'attention du monde entier sur quelque chose qui est en train de se faire dans le pays concerné. Mais aussi, il faut dire que très souvent, ces grands prix ne sont pas uniquement pour le bénéfice, le confort du lauréat, mais très souvent pour les recherches qu'il accomplit. Ce qui est d'ailleurs
et pour son
le
équipe.
Cas aussi du dernier grand prix qui vient d'être créé, le grand prix de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. En fait, c'est le prix, je crois, Christophe Mérieux, en l'occurrence, et dont le but est de lutter contre les maladies infectieuses. Mmh. Alors, je crois que le premier choix a été un choix absolument extraordinaire, puisque c'était justement quelqu'un qui est une forte personnalité du Mali, et un homme qui s'est formé vraiment lui-même, qui est issu d'une famille très modeste, d'agriculteurs maliens, et qui a commencé à entrevoir la nécessité de monter en puissance scientifique et médicale dès l'âge de 10 ans.
Ah, c'est formidable, ça. Et il s'agit du...
Alors, il s'agit de quelqu'un qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des grands experts dans le domaine du paludisme.
Du paludisme.
On l'appelle parfois aussi malaria. Mm-hmm. Et qui a réussi à créer, dans son pays, le Mali, à Bamako, un centre qui, peu à peu, a pris une telle importance qu'il est devenu l'un des centres les plus importants au monde dans l'épreuve des nouveaux vaccins contre le paludisme. Car vous savez que, malheureusement, on ne dispose pas encore d'un vaccin absolument sûr. Donc, des recherches se font aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et très souvent, chose qui illustre à quel point ce centre est important, l'AUF, l'Agence universitaire francophone, mais aussi le NIH des États-Unis, même l'armée américaine, font appel à ce centre-là pour les épreuves, non pas sur les gens, mais les épreuves évidemment biologiques de la qualité de ces vaccins. C'est le professeur Ogbahara Dumbo qui, que je crois, fera l'objet justement
d'une interview
indépendante.
Ici, à Canal Academy.
Oui, et qui a été formé en France.
En France.
À Marseille, à Montpellier, qui ensuite a complété sa formation aux États-Unis et qui est devenu un des grands du paludisme.
Et son centre, le Malaria Research and Training Center, est effectivement internationalement, scientifiquement reconnu. Et on fait appel à ses différentes expertises.
Et est-ce que ce centre fait la recherche, parce qu'il ne se contente pas de faire de l'expertise. Oui. Il fait de la recherche fondamentale, lui et le groupe qu'il a formé.
Oui.
Par exemple, il a étudié les relations qu'il y a entre certains traits génétiques individuels et la sensibilité plus ou moins grande que peuvent présenter justement les individus, les personnes vis-à-vis de l'agent du paludisme, du plasmodium. Il a également purifié à partir de cet agent des protéines qui peuvent servir de candidats vaccins.
Justement, c'est la mise au point de ce possible vaccin efficace. On parle de troisième génération de vaccins contre le paludisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la mise au point de ce vaccin? Pourquoi est-ce que c'est si laborieux?
C'est très laborieux parce que...
Pour une maladie qui touche tellement de monde.
De nombreuses parasitoses, pour les trypanosomiases aussi, celle-ci, et d'autres aussi, ou bien dans même des maladies virales comme le sida, ce qui se passe dans ces agents viraux ou parasitaires, c'est que l'agent infectieux dispose hélas d'une sorte d'intelligence biologique absolument démoniaque, c'est-à-dire qu'il y a des mutations extrêmement fréquentes, très fréquentes, même annuelles, qui font que, alors qu'on croit avoir mis au point un vaccin contre tel ou tel agent, cet agent a muté et ce sont des formes nouvelles qui sont insensibles à l'anticorps qui en résulte. Donc il faut tout de suite essayer de mettre au point d'autres vaccins. C'est ce qu'on connaît aussi pour la grippe, d'ailleurs.
Oui.
Alors, dans le cas de la grippe, bon, mon Dieu, c'est quelquefois très invalidant, rarement mortel. Mais quand il s'agit ou du sida
ou du paludisme,
c'est évidemment quelque chose qui est peut-être terrible. Donc, on est obligé de combiner à la fois de nouveaux vaccins, et c'est difficile, et en même temps de rechercher de nouveaux antigènes, et bien sûr de nouveaux agents chimiques antimalariques.
Et après, de mettre en pratique sur le plan industriel la mise au point de tous ces vaccins,
la chose médicaments. Tout même assez délicat.
Et ensuite le distribuer. Ce sont des projets de grande envergure qui touchent l'humanité, tout simplement,
oui.
Et chacun d'entre nous. François Gros, je vous remercie d'être venu nous présenter le prix Christophe Mérieux 2007 qui vient d'être créé de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, créé en 2001 sous l'égide de l'Institut de France. Et je vous remercie également de vos explications scientifiques claires pour nos internautes. Et j'invite nos internautes à retrouver les autres interviews que vous avez accordées à notre antenne dans la médiathèque. Et je les invite également à écouter la retransmission de la coupole de ces grands prix scientifiques et humanitaires à l'Institut de France, celle de la coupole du 13 juin. Je les invite également à découvrir l'interview du chancelier Gabriel De Breuil sur ce mécénat moderne tourné vers l'avenir et à écouter également l'interview du professeur Ogabora Dumbo. Merci.